Alors, pour approfondir ce parcours en littérature, je vais appeler maintenant donc Laurence Faron, qui est cofondatrice de la maison d'édition jeunesse Talent Haut, Audrey Lasserre, qui est doctorante et à l'université de Sorbonne Nouvelle Paris 3, et Delphine Naudier, qui est sociologue chargée de recherche au CNRS. C'est donc Christine, vous restez parmi nous et c'est vous qui avez la charge de modérer ce débat. Merci.
Pendant que Audrey et Delphine s'installent, quelque chose aussi qui est assez révélateur. Pour faire la table ronde, on avait réfléchi ensemble à trouver quelqu'un qui travaillerait sur les normes de genre dans la littérature écrite par des hommes. Et en fait, on n'a pas trouvé. C'est-à-dire que si on pouvait trouver des gens qui travaillent sur l'homosexualité, mais vous voyez, les normes de genre telles qu'elles pèsent sur les hommes, la description d'hommes hétérosexuels, on n'en trouve pas. Les interrogations avancent pas à pas. Alors en fait, pour continuer cette réflexion, je voulais élargir à vos analyses. Donc, sachant qu'Audrey fait une thèse sur les romancières et le féminisme dans les années 70.
Oui, les fictions et essais féministes, ouais. Ce que j'appelle la littérature féministe, ou plus exactement les littératures féministes, tant on sait que les débats ont été problématiques.
Voilà. Que Delphine a terminé une thèse sur les romancières contemporaines, et que Laurence est cofondatrice de la maison d'édition Talent Haut, qui est une maison d'édition pour la jeunesse, de littérature pour jeunesse, qui vise justement à déconstruire les stéréotypes. Donc justement, je voulais commencer avec vous, parce que ça me semblait vraiment important qu'on parle aussi de littérature jeunesse dans une table ronde sur la littérature. Donc quels stéréotypes de genre, justement, vous avez pu repérer dans la littérature jeunesse, et qu'est-ce qui a amené à cette nécessité de créer une maison d'édition à côté ?
J'ai retenu dans ce que vous avez dit des choses qui ont fait écho à mes préoccupations quotidiennes, à nos préoccupations quotidiennes chez Talent Haut, parce qu'effectivement tout part de La Belle au bois dormant, on pourrait dire, puisque le modèle que l'on propose dans la littérature de jeunesse classique, mais aussi, je vais vous le montrer un petit peu plus avant, dans la littérature contemporaine pour enfants, c'est rien d'autre que le conte de fées qui se termine par un mariage. Et effectivement, on reproduit encore aujourd'hui le schéma patriarcal qui est imposé. Et vous avez tout à fait raison de dire qu'on ne peut pas parler de littérature et de stéréotypes de sexe sans parler de politique, en fait. Le conte classique, je ne vais pas y revenir parce que tout le monde connaît la Belle au bois dormant, même s'il y a différentes interprétations. Mais ce que je voudrais surtout montrer, c'est qu'aujourd'hui, en 2010, si le sexisme n'a pas disparu de notre société, c'est aussi parce que, et cause et conséquence, il n'a pas disparu de la littérature que l'on propose à nos enfants, dans les familles, dans les écoles, et peut-être la qualité des livres d'aujourd'hui renforce ce danger et cette inconscience générale qui est à l'œuvre, dans la mesure où les livres, je suis passée à la librairie en attendant cette conférence et j'ai encore trouvé de nouveaux exemples, les livres sont tellement beaux, tellement réussis, tellement peu chers finalement, que c'est d'autant plus facile d'y camoufler volontairement ou non des stéréotypes qu'on propose à nos jeunes enfants. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le sexisme n'a pas disparu de la littérature de jeunesse. D'abord, très rapidement, statistiquement, il y a quand même beaucoup moins de héros que d'héroïnes dans les albums de jeunesse. Deux fois moins lorsqu'il s'agit d'héroïnes humaines et 10 fois moins lorsqu'il s'agit d'héroïnes animales, puisque vous savez que les animaux sont souvent les héros des albums pour les tout-petits. Lorsque vous avez une héroïne qui est à l'œuvre dans un roman, il est bien rare, en outre, qu'elle soit en couverture ou du moins qu'elle y soit seule. Les personnages des albums pour la jeunesse, pour les enfants, donc quand on parle d'album, excusez-moi, c'est un peu du jargon d'éditrice, album, c'est en gros, c'est de 2 à 7 ans, c'est-à-dire avant la lecture autonome. Donc c'est là que sont le plus à l'œuvre les stéréotypes et qu'ils sont d'autant plus pernicieux qu'ils passent par un adulte, c'est-à-dire avant la lecture, l'enfant par définition entend des livres lus par un adulte, et un adulte de référence, puisqu'il s'agit soit d'un être aimé de la famille, soit d'un enseignant censément respecté, ou du moins en tout cas une autorité intellectuelle. Donc c'est d'autant plus pernicieux et d'autant plus que les jeunes esprits sont dans une situation affective. C'est très très important de se rendre compte de ça aussi, je pense. Donc ces personnages stéréotypés dans les albums sont bien souvent représentés de façon caricaturale, avec des attributs très très stéréotypés. Les personnages féminins sont cantonnés aux tâches domestiques et les personnages masculins travaillent à l'extérieur. Je vous montre des images rapidement parce que je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais c'est vrai que c'est très parlant. Ça a l'air d'être un classique, hein, mais c'est quelque chose d'assez récent. Tous les exemples que j'ai pris ont moins de 10 ans. Hein. Donc là, c'est l'histoire d'une famille souris qui est absolument adorable. L'histoire est très mignonne. J'aimais beaucoup la raconter à mes enfants jusqu'à ce que je lise le texte. Je ne sais pas si vous pouvez lire là. Donc, la petite souris avait grandi et à son tour, elle avait eu des enfants. Elle se trouvait à la tête de 1250 sourisettes et sourisseaux qui la remplissaient de bonheur tout en lui donnant beaucoup de travail. Bon. Jusque-là, nous sommes chez les souris. Elle se sentait parfois bien seule pour s'occuper d'une telle famille en attendant le retour de papa souris parti travailler à la ville. Donc c'est complètement gratuit, en plus. Non seulement ça ne reflète pas l'état de notre société actuelle, puisque comme on le sait, en France en tout cas, plus de 70% des femmes travaillent à l'extérieur, donc c'est pas en lien avec ce que vivent les enfants, mais en plus c'est gratuit dans l'histoire, parce qu'on ne parle pas du papa, on parle c'est une histoire sur la perte des dents, des dents de lait. Lorsqu'elles travaillent, les femmes exercent des métiers peu différents, très peu variés, typiquement féminins. Donc un album, là aussi un petit peu vieillot dans son graphisme, mais tout à fait contemporain, où vous voyez une infirmière, une hôtesse de l'air, une majorette, drôle de métier, à comparer à un commandant de bord, un contrôleur, un douanier, un facteur, etc. Donc les métiers valorisants sont bien évidemment réservés aux hommes. Un grand classique également qui se niche dans beaucoup d'albums, et là, les gens qui aiment la littérature de jeunesse sont souvent un petit peu choqués quand je montre cet exemple, parce que c'est un auteur et un illustrateur de grand talent, et je ne lui conteste pas. Mais il n'est pas lui non plus exempt de sexisme, puisque c'est un très, très bon exemple de ce qu'on trouve dans la littérature de jeunesse, avec des femmes cantonnées aux lieux privés et à la sphère domestique, alors que les hommes, eux, vont dans les lieux publics. Donc là, c'est une histoire de Tempête, là aussi tout à fait charmante, avec des illustrations magnifiques, comme vous le voyez. Mais bien évidemment, c'est papa, encore une souris, décidément, qui va à l'extérieur chercher de quoi tenir pendant l'averse. Les personnages féminins ont des accessoires féminins, qui sont cette fois très vieillots, mais tous ces albums, lorsqu'ils sont anciens, ont été réédités récemment. Donc ils sont en tête de gondole dans les librairies, dans les supermarchés certainement encore plus. Donc voilà, on verse avec un tablier, on coupe les fleurs avec un tablier, on se fait coquette avec un tablier, c'est du quotidien d'aujourd'hui. Quant aux hommes, eux, bien sûr, ils sont dans leur fauteuil avec une pipe, des lunettes, un journal, donc c'est forcément des intellectuels, et en tout cas, qui sont rarement dans la cuisine. Voilà, donc j'aurais pu commencer par là, j'ai d'ailleurs commencé par là, La Belle au bois dormant, toujours un grand classique, mais qui est effectivement un archétype fondateur pour toute la littérature de jeunesse et comme Christine le disait, pour la littérature tout court. Rôle passif, rôle actif, ça se passe de commentaires. Disney, on s'y attendait un peu plus. Quant aux jeunes filles, elles sont passives, elles sont effrayées, elles sont sauvées par des super-héros, des hommes super-actifs. Là, je ne résiste pas à vous lire le texte que vous ne devez pas pouvoir lire. C'est un livre pour les 8 ans, les enfants de 8 ans. Donc pour les garçons, forcément, puisque le héros est un garçon. Donc Takei donc, est un vaillant guerrier japonais. Donc il se rue dans la chambre. La jeune fille penchée à la fenêtre ne l'a pas vu approcher. Lorsqu'il la prend dans ses bras, elle ne peut retenir un hurlement de frayeur en reconnaissant un ninja. Leur réputation est si terrible qu'elle préfère mourir dans les flammes. « N'aie pas peur, je suis venue vous sauver », explique Takei, en se précipitant à nouveau vers l'escalier au risque de s'effondrer. La jeune fille ne l'écoute pas, elle s'est évanouie. Takei surgit dans la cour au milieu des servantes affolées et leur confie la jeune fille. Mais les servantes se mettent à hurler, etc., etc. Tout est du même tonneau, c'est-à-dire que les femmes et les jeunes filles sont effrayées quand elles ne s'évanouissent pas, quand elles ne se sauvent pas. Bien sûr, elles sont sauvées par les super-héros. Aussi pour vous faire prendre conscience que le stéréotype féminin est à son revers, c'est le stéréotype masculin, bien évidemment, et que le diktat qu'on impose aux petits garçons est parfois aussi difficile à vivre que celui qu'on impose aux petites filles. être un super-héros à 5 ans quand on est un petit garçon et que donc on a parfois des cauchemars, envie de pleurer, c'est assez difficile à vivre et bien évidemment non seulement c'est constructeur ou déconstructeur pour la suite, mais même dans le quotidien de l'enfant, c'est quelque chose d'assez lourd à porter. Du côté des enfants, les modèles qu'on leur propose, les modèles enfantins qu'on leur propose sont guère différents. Je vous passe rapidement, parce que ça c'est vraiment vieillot, quoique réédité comme je vous l'ai dit, mais la Malice est quand même un exemple particulièrement délicieux. Donc c'est un abécédaire, donc la définition de l'exemple donné pour Malice. Quand on est malicieux, c'est qu'on a de la malice, on taquine même ses amis. Regardez comme cette petite fille est malicieuse, elle demande au petit garçon de faire le ménage. Les petits garçons sont bien sûr intrépides, ils font des bêtises, ils démolissent, ils veulent toujours se bagarrer, et ils font des bêtises mais qu'on leur pardonne facilement, alors que les petites filles, bien évidemment, n'ont beaucoup moins droit à l'erreur dans toutes ces histoires. Je pourrais vous le montrer, mais je vais essayer de laisser la parole à mes consoeurs. Vous m'interrompez. On en a parlé aussi, ce qu'on peut appeler la vague nostalgique, qui correspond en fait à la réédition d'ouvrages des années 50 avec les stéréotypes de l'époque. Vous connaissez tous Martine, mère au foyer qui fait la cuisine, mais vous connaissez peut-être moins Jean-Loup et Sophie. Donc Sophie est forcément une petite sœur, ça c'est un grand classique aussi, Sophie est une petite sœur alors que Jean-Loup est un grand garçon. Donc là Jean-Loup lui explique que dans la nature il ne faut pas bouger parce que l'oiseau est un oiseau très timide si Sophie veut pouvoir l'observer. Donc il a un ton condescendant et moralisateur qui participe du personnage de garçon qui sait tout et qui protège et qui éduque. Et puis, récemment, la tendance Lolita, qui, à mon sens, est assez nouvelle et fait bien des ravages aussi, puisqu'on apprend dès l'âge de 6 ans aux petites filles à devenir des femmes-objets. Là, c'est un petit album qui explique comment devenir une princesse. Donc, son petit déjeuner terminé, la princesse prend son bain, elle se plonge dans du lait d'anès parfumé aux pétales de rose, afin que sa peau soit toute douce. Puis, on s'occupe de ses cheveux, de ses pieds et de ses mains. Tout doit être parfait. Dictat terrible. Des conseils magiques pour user de son charme et se sentir vraiment belle, dès 8 ans. Pour devenir belle comme une princesse, ce guide dévoile tous les secrets du maquillage dès 6 ans. Ce ne sont que des exemples, mais il y en a beaucoup d'autres, hein. Ce n'est pas des exceptions. Et puis, pour les tout-petits, c'est un livre vraiment là qu'on a offert dans les crèches, qui a été offert dans les crèches à Paris, « Le bal des fleurs ». Un livre pour les tout-petits qui transmet des stéréotypes sexistes, comme vous le voyez. Est-ce que tu me trouves belle? Oui, vraiment charmante, c'est tout, non? Une robe de dentelle pour être très belle. Donc là, c'est même avant l'école. Un phénomène qu'on retrouve dans les magasins de jouets, dans les magasins de décoration, dans la mode, bien évidemment. Le rose, le bleu, la sexuation précoce, de plus en plus, essentiellement pour des raisons marketing, et qu'on retrouve maintenant aussi dans la littérature de jeunesse, avec des collections pour les petites filles, des collections pour les petits garçons. Chloé joue à faire le ménage, la moto de Marco. Collection petites filles, je vous lis la quatrième de couverture, une adorable collection de livres tout carton destinés aux petites filles qui aiment imiter les grandes personnes en s'amusant avec leurs jouets. Collection petits garçons, destinée aux petits garçons dès 2 ans, pour que l'enfant puisse s'identifier au héros et laisser vagabonder son imagination. Lui, il a le droit de laisser vagabonder son imagination. Et collection petits héros, collection princesse parfaite. Princesse parfaite, c'est quand même ma préférence. Zoé est une adorable petite fille qui n'en fait qu'à sa tête. Mais comme toutes les petites filles, elle peut aussi devenir une princesse parfaite qui fait tout bien comme il faut. C'est-à-dire qu'elle fait des bêtises quand même. Elle ressemblerait presque à un garçon. Mais tout n'est pas perdu. Elle va peut-être quand même réussir à être une princesse parfaite. Et à la fin, on délivre à la petite lectrice un diplôme de princesse parfaite.
Peut-être
un petit tour d'horizon,
oui,
bien sûr, oui.
Peut-être avant de passer justement avec cet exemple de déconstruction des stéréotypes. Donc, nos romancières lisent des livres quand elles sont petites et elles grandissent. Et donc, justement, Audrey et Delphine.
Donc, les grandes, c'est pour nous. Qui commence? C'est moi. Alors, je crois que la question initiale que tu m'avais gentiment envoyée par email pour qu'on prépare cette table ronde était quel stéréotype de genre dans la littérature contemporaine. Alors, il est bien évident que dans la littérature contemporaine est extrêmement vaste, qu'on est confronté, surtout en 10 minutes, qu'on est confronté à des genres littéraires qui répondent à des principes qui leur sont propres. Exemple type, puisque la littérature jeunesse fait partie de la littérature et qu'on en a vu un très bel exemple. Donc, des principes qui leur sont propres, des contraintes, un héritage et un public particulier. Donc, je ne me livrerai pas à cet exercice d'ensemble, ou plus exactement, je vais le tenter quand même, mais en passant par un genre littéraire, voire deux, qui pourraient nous donner des réponses, à savoir ce qu'on va trouver en termes de stéréotypes dans les essais littéraires. Et que j'ai complété par une étude que j'ai faite il y a quelques mois déjà sur les entretiens d'auteurs. Alors, qu'est-ce qu'on trouve eh bien, dans ces essais? Peut-être d'abord repasser par ce que tu disais, Christine, c'est-à-dire ce que tu as présenté aujourd'hui et ce que vous avez présenté avec Anne Simon, les analyses donc dans leur « à leur corps défendant ». Hein. Et si je peux généraliser, en tout cas l'intérêt pour moi, c'est que tu as démontré dans ces productions fictionnelles non pas seulement des stéréotypes de contenu, mais un stéréotype d'écriture. Un stéréotype d'écriture qui viserait à dire qu'on est passé en gros des années 70 où écrire la femme par la femme ou les femmes par les femmes était une position transgressive, déjà d'ailleurs paradoxalement transgressive à l'époque. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte de Christine Delphi qui désigne et analyse Paroles de femmes, hein, proto-féminisme et anti-féminisme. Donc on avait déjà une transgression qui était paradoxale à l'époque. Bref, on serait passé maintenant à une écriture stéréotypée où les femmes écrivent de la femme ou des femmes, avec la question du corps, avec la question de l'amour. Or, si on reprend l'exemple que tu donnais à propos de Marie Nimier et de la nouvelle pornographie, ce roman me semble tout à fait éclairant parce qu'il met en abîme un phénomène qui est une norme éditoriale et un stéréotype d'écriture qui en découle et qui ne concerne pas toutes les femmes, qui concerne certaines femmes lorsqu'on les met dans un cas particulier de faire de la littérature alimentaire ou commerciale. C'est ce que dit Nimier, en fait. Dans ce roman, elle met en scène une romancière, Marie Nimier, à qui un éditeur passe une commande aux promesses très lucratives, écrire effectivement un texte nouvelle pornographie, hein, mais surtout un texte où, ici, on ne doit pas lire de l'expérimental, on doit lire des relations très hétérosexuelles, on doit convenir aux attentes du public. Bref, un texte écrit sur le mode autofictionnel pour répondre aux attentes du public. Alors, en quoi ça va m'amener aux essais et à ce que j'ai pu trouver dans les essais? Eh bien, on sait, en tout cas en domaine français, en langue française, on a ce vieil imaginaire qui nous reste depuis le 19e siècle, qui consiste à dire que quand ça se vend, a priori, ça ne va pas être reconnu symboliquement. Ou l'inverse, c'est-à-dire pour être connu symboliquement, il ne faut pas vendre. Donc, dichotomie. Or, si on part de ce principe-là, que ce qui se vend, effectivement, c'est d'écrire de la femme par la femme ou des femmes par les femmes, que va-t-on trouver dans un essai littéraire qui est un ouvrage qu'on dit épistémique, c'est-à-dire un ouvrage qui va livrer un savoir sur le littéraire, mais aussi une position par rapport au travail que l'écrivain ou que l'écrivaine mène et qui développe ce qu'on appelle un scénario auctorial, c'est-à-dire là où l'écrivain va aussi se mettre en scène en fonction de la place qu'il s'attribue de ce qu'il ou elle pense de la littérature en général. Alors, ce scénario auctorial, voilà ce qui en ressort. J'ai cherché donc dans les essais produits à partir des années 80. Je laisse de côté, comme Marie le faisait tout à l'heure, la question qui est extrêmement problématique du contemporain, notamment chez les littéraires, puisque ça désigne à la fois plein de choses, une contemporanéité de production, mais aussi une période littéraire. Donc voilà, je prends les essais qui ont été produits depuis les années 80. Je prends également, j'ai fait une étude de presse donc sur le magazine, sur LMDA, donc qui est un magazine de littérature contemporaine. Et voilà ce qui en ressort en termes de récurrence, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler un stéréotype en termes de scénario auctorial des écrivaines,
ici représentée. Alors, très clairement, ça va, je suis pas trop... Non, j'ai encore un peu de temps. Je passe. Eh bien, très clairement, on a un stéréotype et une norme qui est clairement intégrée, c'est que le féminin est une figure polaire répulsive en termes de reconnaissance symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour être reconnue, pour se positionner en tant qu'écrivaine, il faut se positionner en tant qu'écrivain. D'abord, ça veut dire également qu'il s'agit de légitimer un scénario auctorial du masculin dit neutre. Alors, par quoi ça se traduit ? D'abord, par le refus de l'emploi du terme écrivaine, et on pourra en discuter au moment du débat, mais parce qu'il est jugé un particularisant, c'est-à-dire je suis écrivain parce que je ne suis pas écrivaine, deux, qui renvoie très clairement à une figure répulsive qui est l'écriture féminine des années 70. Donc notamment Sixou, notamment Chawaf, même si on ne devrait pas les ranger ensemble, ou encore Annie Leclerc, par exemple. Donc figure répulsive, je pourrais vous donner... Je ne sais pas si j'ai le temps, Christine, il me reste combien de temps
Si on veut...
Tenir les délais. Alors, je ne cite pas. Je voulais vous citer plusieurs exemples, en fait, de prise de position, même d'écrivaines qui sont pour autant engagées sur les questions féministes ou les questions de genre. Je pensais à Geneviève Brisac, par exemple, et qui ne se résout pas à employer le terme écrivaine. Deuxième point sur lequel je vais aller très vite, parce que je sais que Delphine va en parler, c'est le développement de stratégies narratives qui sont très clairement expliquées dans les essais et les entretiens. C'est-à-dire que quand on est une femme qui fait de la fiction ou de la poésie, on a fort intérêt à ne pas recourir à une voix féminine sous peine d'être assignée à résidence, c'est-à-dire à être amenée à l'intime, à l'autobiographie ou à l'autofiction, alors que le projet est de fictionnaliser dans le cadre du roman, par exemple. Enfin, ce qui apparaît très clairement en termes de stéréotypes et en termes de contenu, et ce qui a été un petit peu une surprise pour moi, ça a été les références. Lorsqu'on analyse les références des écrivaines dans les essais ou dans les entretiens, on se rend compte d'une constante, en sachant que les écrivaines comme les écrivains sont de grands liseurs, qu'on a en plus un mouvement contemporain qui est très clair du collage, de l'intertexte, donc il y a vraiment un enjeu sur la question des lectures qui disent à la fois le parcours de l'écrivaine, mais en même temps, ses influences littéraires et ce avec quoi elle travaille, eh bien, sur l'ensemble de ces références, on arrive en moyenne, c'est toujours assez identique, à 85% de références écrites par des hommes, 15% par des femmes. Et on n'en sort pas de ça. Pour donner un exemple de ce qui se passe quand on en sort, c'est-à-dire quand on refuse la figure polaire répulsive que constitue le féminin, y compris par la référence d'écrivaines du passé ou d'autrices du passé, eh bien, je prendrai l'exemple d'un entretien dans justement le Matricule des Anges, où une romancière, Dominique Ménard, convoque 60% de références écrites par des femmes et 40% par des hommes dans l'entretien. Pourquoi ? Parce que, on peut l'expliquer très facilement, Dominique Ménard a fait un petit séjour assez prolongé aux États-Unis et qu'elle a donc lu dans une culture qui est pensée différemment. Et donc 60% de références de femmes, 40% d'hommes, et la seule sur les 15 entretiens à qui on pose la question de la littérature féminine, c'est elle, alors qu'elle n'a jamais pris position sur le fait de construire une littérature féminine ou même de cautionner cette entreprise-là. Et bien parce qu'elle cite des femmes, des références de femmes, on va tout de suite la ranger dans une catégorie qui s'appelle la littérature féminine et lui demander de s'expliquer sur cette question. Voilà. Alors, pour terminer, je ne sais pas si vous connaissez... je m'arrêterai là, parce que je voulais parler des transgressions, mais je n'aurai pas le temps. Je ne sais pas si vous connaissez un essai de Linda Lee, qui serait en quelque sorte l'archétype de ce que je décrivais, des références masculines, c'est le complexe de Caliban. Et dans le complexe de Caliban, c'est très étonnant parce qu'elle décrit, en fait, à travers ce personnage de Caliban qui est repris à la tempête de Shakespeare, qui a été repris dans les analyses contemporaines pour symboliser le colonisé par rapport au colonisateur, eh bien, elle va expliquer ce qui résume exactement, en gros, le phénomène. Ma résolution de devenir écrivain s'affermit en lisant les grands auteurs, Flaubert, Dostoïevski, Shakespeare, l'un après l'autre. mais je commençais à ressentir profondément ma différence, car j'étais une égarée en quête d'une image à laquelle m'identifier. Il vient clair que là, Linda Lay ne fait absolument pas jouer le genre, mais que ce parallèle entre son origine et sa culture vietnamienne et la culture française a des échos. Pour ceux qui connaissent les Cheech et les Chooch de Wittig, on est vraiment en plein dedans. Voilà, j'avais encore plein de choses à vous dire, seulement deux titres, si je peux dire deux.
Peut-être parce que...
Delphine juste, et Avrad.
Voilà, parce qu'en fait, ça fait justement une transition, quand tu parlais de contrat auctorial, etc., avec une autre façon d'aborder justement l'assignation de genre pour une femme qui écrit, bah, qui est justement... comment arriver à se faire reconnaître comme une femme qui écrit. Et on verra, justement, avec le travail de Delphine, que ça a aussi des incidences sur qu'est-ce que je vais écrire pour être connue comme femme qui écrit.
Voilà. Alors, mon intervention, au fond, va se dérouler en deux temps, c'est-à-dire partir donc, de la question qui est posée ici des normes de genre. Et puis, dans ma première partie, ce sera plus évoqué, au fond, les inégalités entre les sexes dans la littérature en partant des différents paliers d'inégalité qui peut exister. Et puis, dans une deuxième partie, sur les usages des personnages masculins, justement, dans la littérature féminine, enfin, écrite par des femmes, comme a commencé à en parler Audrey. Donc, la question des normes de genre en littérature, elle invite d'abord à poser la question des inégalités d'accès et de consécration entre les hommes et les femmes dans le champ littéraire. Et il me semble que cette impensée des normes de genre tient en partie, même si on fait évidemment ces derniers jours et qu'il y a une bibliographie qui commence à abonder, elle tenait en partie au fait que persiste l'idée d'une croyance en une littérature universelle, neutre, celle où l'on reconnaît les chefs-d'œuvre, les grands livres, qui, comme les anges, n'auraient pas de sexe, enfin non pas de sexe, du moins que l'on croit asexués. Donc en pensant l'art, sa fabrication et le monde des écrivains en dehors de toute contingence matérielle, au fond de tout ancrage social, sociologique, l'on oublie qu'en réalité, les normes qui contribuent à fabriquer la valeur des œuvres, à juger les auteurs masculins et féminins, à donner accès à cette carrière, émane d'hommes blancs d'origine sociale plutôt élevée, bourgeoisie culturelle et économique pour le dire vite, et puis hétérosexuelle. Et donc c'est de ce travail qu'émane au fond une bicatégorisation sexuée qui sépare la littérature féminine de la littérature masculine et qui induit donc une hiérarchisation avec effectivement la valeur répulsive de tout ce qui est connoté du féminin en littérature. Donc maintenant avec cet arrière-plan, si on chose désormais ses lunettes pour saisir ce qu'implique pour les femmes d'investir un espace empreint de normes de genre marquées du sceau du masculin, on peut un peu mieux comprendre pourquoi, alors qu'un préjugé tenace qui imagine aujourd'hui qu'elles sont aussi nombreuses que les hommes à écrire, en réalité, elles demeurent encore un tiers, voire 40% des effectifs des écrivains contemporains. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'au final, si on regarde par rapport au 19e siècle, ça c'est assez compliqué toujours de dénombrer la part des hommes et des femmes, finalement, il n'y aurait pas eu d'évolution, d'augmentation en tout cas du rapport du sexe ratio, on va dire. Donc, voilà. Donc, traditionnellement, les femmes sont de plus grandes lectrices que les hommes. Elles sont aussi davantage inscrites en bibliothèque que les hommes. Et si l'on compare avec les écrivains amateurs, les femmes sont deux fois plus nombreuses que les hommes à consacrer du temps à la pratique d'écriture. Et parmi les écrivains amateurs, elles constituent les deux tiers des participants au concours de nouvelles France Loisirs qu'avait étudié Claude Pauliac. Donc, les écrivaines que j'ai pu rencontrer, ou les écrivaines contemporaines que je n'ai pas rencontrées, mais qui constituent ce tiers, constituent une forte minorité qui accède au champ littéraire statistique. Donc, les données statistiques fournies pour les carrières d'artistes féminines attestent donc d'une atténuation de la ségrégation sexuée depuis un siècle. Le taux de féminisation de l'ensemble des professions culturelles est aujourd'hui de 40% selon l'enquête Emploi INSEE. Du côté de la création littéraire et artistique, les femmes s'illustrent fortement chez les écrivains et les plasticiennes. Elles représentent 46% des auteurs dits littéraires, mais cette catégorie comprend les auteurs littéraires, les scénaristes et les dialoguistes. Donc cette proportion, si l'on rentre plus précisément dans la catégorie roman-récit français, par exemple, qui paraît tous les ans dans Livre Hebdo à l'occasion de la rentrée littéraire, en fait, elle s'avère environ 30%. Ensuite, si l'on resserre la focale sur la rubrique roman des catalogues d'éditeurs, dont l'ancienneté et le positionnement sur le marché littéraire et éditorial sont contrastés, la présence des femmes est moindre. Par exemple, elles sont 20% des auteurs chez Minuit, 26% chez POL, 30% chez Gallimard, un tiers chez Albin Michel. Bon, là où elles sont plus nombreuses, en gros, c'est chez Stock où elles atteignent 40% au début des années 2000. Donc, après, si on prend encore un autre indicateur pour vraiment voir comment existent finalement des inégalités entre les sexes, on voit que le jury féminin, a promu environ 35% d'auteurs féminins depuis sa création. Mais si l'on prend pour référence le jury le plus prestigieux du champ littéraire, le prix Goncourt, eh bien, la proportion décroît drastiquement puisqu'elles sont seulement 10, la dernière étant Marie Ndiaye, à avoir obtenu ce prix. Ensuite, si on va encore plus loin dans une institution encore plus conservatrice, l'Académie française, eh bien là, on peut mesurer davantage encore la résistance à leur entrée puisque depuis sa création en 1835, sur 719 immortelles figurent seulement 6 femmes, parmi lesquelles figurent 3 écrivaines, dont la première a été élue en 1981, Marguerite Yourcenar. Et si vous voulez, dans la discussion, je pourrais revenir sur les conditions de son élection. Donc, si les inégalités de genre apparaissent dès lors que l'on déserte le monde du privé pour aborder l'accès à une pratique professionnalisée soumise au jugement des pairs, on s'aperçoit qu'il existe en littérature, comme d'autres champs du social, un plafond de verre qui, pour les femmes, jouerait à 4 niveaux. Alors, le premier concerne le passage de ce que Claude Polyak appelle le simili-champ littéraire, c'est-à-dire c'est l'espace des écrivains amateurs, c'est-à-dire de ceux qui participent justement à tous ces concours de nouvelles. Ensuite, donc, de ce passage du simili-champ littéraire au champ littéraire légitime, un deuxième se situe dans le champ littéraire lui-même où les femmes sont sous-représentées dans les maisons d'édition, un troisième où les femmes sont moins consacrées que leurs homologues masculins par les instances qui les évaluent, et puis un quatrième qui concerne leur postérité évaluée à l'aune des manuels d'histoire littéraire sur lesquels a notamment travaillé Audrey. Donc on voit bien que cette toile de fond de normes de genre élaborée par des hommes traditionnellement, eh bien, au fond, entrave les femmes dans leur volonté d'accès à cet espace du champ littéraire légitime. Alors, peut-être que là...
Sur l'effet que ça peut maintenant,
une fois que ces femmes sont là, donc Audrey a abordé la question de la littérature féminine, et je vais vous aborder donc le fait que pour les romancières, l'idée d'être assignée à la littérature féminine, donc qui fait office de repoussoir, oblige à certaines parades au fond pour lutter contre certaines formes de discrédit qui confinent à l'amateurisme les écrivaines. Donc je ferai ici l'économie de l'évaluation genrée des œuvres des hommes et des femmes, la critique littéraire étant un grand lieu de diffusion du sexisme ordinaire, hein, où se mêlent des formes d'infantilisation. Par exemple, on va parler d'Annie Ernaux en disant la petite Annie, ou on va parler d'elle en faisant mention exclusive du prénom, alors que pour les auteurs masculins, on va mentionner davantage uniquement le nom. Et puis, surtout, on réduit l'analyse de leur œuvre à leur appartenance sexuée. C'est-à-dire qu'au fond, les auteurs féminins ont tendance à avoir subsumé leur particularité littéraire à leur appartenance de sexe. Si bien que les écrivaines, au fond, sont en permanence confrontées à la question des normes de genre. Et par exemple, l'idée de créer un narrateur masculin ne va pas toujours pour soi. Par exemple, Hélène Cixous, donc, qui était effectivement une des grandes promotrices de l'écriture femme, déclare à la revue théâtrale en 1995 « Je n'ai jamais osé créer dans les textes de fiction un vrai personnage d'homme ». L'écrivaine québécoise Monique Larue commente ainsi les doutes qui l'ont assaillie par rapport à sa décision dans son quatrième roman « La démarche du crabe » de donner la voix à un narrateur masculin. Elle dit « Ce roman sera écrit en narration directe, première personne. Cela m'a pris 6 mois à prendre cette décision parce que ce narrateur s'avérait être un homme et que je résistais. J'avais peur. Pouvais-je, moi, une femme, donner la parole à un homme? En étais-je capable? En avais-je le droit? En aurais-je l'audace? Où cela me mènerait-il? Pourquoi faire parler un homme? Selon quelle théorie? Quel sens pour établir quelle communication? » Donc, à l'aune de ces deux témoignages, il semble bien que pour les femmes, s'autoriser à écrire et s'autoriser à inventer des personnages masculins est toujours problématique. Mais si créer des personnages d'hommes n'est pas évident pour certaines, les écrivaines, en étant de sexe féminin, doivent pourtant, en quelque sorte, faire la démonstration de leur professionnalisme littéraire en faisant oublier leur sexe. Et donc, l'intérêt commun des auteurs, si l'intérêt commun des écrivaines est individuellement d'être reconnues pour la spécificité de leur littéraire de leur œuvre, certaines vont adopter des stratégies qui justifient leurs compétences d'écrivain. Nombre d'entre elles, depuis les années 70, comme Christine de Rivoire, Geneviève Dorman, Elvire Muraille, Dominique Rollin, Régine de Tambelle, ou Lydie Salvaire, ou Nina Bouraoui, créent des narrateurs masculins. Et si l'on retourne quelques années en arrière, l'on remarque par exemple que plusieurs romans féminins ont paru en 1977, alors même que l'écriture féminine était en débat. Et interrogée sur la création de narrateurs masculins, Christine de Rivoire répondait « Dans mon précédent livre, je rentrais dans la peau d'une petite fille de 12 ans et d'une employée de maison, parlant gascon. C'était aussi coton que d'être un homme. Vous savez, c'est le privilège du romancier de faire des cabrioles. Je connais les hommes, leur vocabulaire, leurs réactions, leur grandiose, leur solennelle mauvaise foi. Ce n'a pas été une performance particulière. » Donc la création de ces personnages devient au fond une sorte d'exercice de style qui apporte la preuve de la capacité à travailler un texte, une intrigue et des personnages pour défaire l'écriture de tout marquage sexué. Et Geneviève Dorman déclare, elle déclarait à l'époque, « Il n'y a pas de sexe en littérature, le romancier peut se mettre à la place de n'importe qui, une table, d'une petite fille, d'un homme, d'une pomme, rien n'est interdit dans l'imagination. » Donc certes, les femmes prouvent leur maîtrise du genre romanesque, mais la création de personnages masculins permet aussi de lutter contre un autre préjugé qui est celui de ne pas faire de l'autobiographie. Et par exemple, Geneviève Dorman dit « Les gens imaginent toujours lorsqu'elle écrit qu'une femme raconte sa vie. Cela déroute tout le monde parce qu'on ne peut plus m'accuser de raconter ma vie. » Et d'ailleurs, à cet égard, on peut noter justement dans la critique littéraire que ce travail de création de personnages masculins éloigne de fait de tout préjugé autobiographique. Par exemple, Dominique Guillou, un critique littéraire du Figaro, écrivait à propos de Régine de Tambelle et de son roman Le Jardin Clos, qui met donc en scène un narrateur masculin. Le Jardin Clos, classique dans sa narration, est écrit à la première personne. N'allez pas chercher dans ce jeu la moindre part autobiographique. L'écrivain s'efface totalement derrière son personnage, un jeune homme de 19 ans, reclus volontaire dans un jardin public. Donc l'usage du narrateur masculin, poussé à son extrême, peut également faire office d'instance de légitimation de l'écrivain. C'est les postures dont parlait tout à l'heure Audrey. Donc, dans le sujet Angot, par exemple, l'écrivaine forge un narrateur masculin qui fait son éloge en dressant le portrait de Christine Angot, à qui l'auteur fait dire « Tu es la personne la plus libre que je connaisse ». Donc, sous couvert de personnages masculins, c'est au fond l'intériorisation des normes de genre et des normes de genre masculinement produites, enfin, des normes masculines, pardon, produites. Et donc, certaines romancières peuvent ainsi se défaire de stigmates qu'endossent collectivement les auteurs féminins, mais en faisant la démonstration de leur amateurisme et de la possibilité de performer les genres littérairement. Donc, souvent, elles font bouger les lignes pour imposer leur autorité, mais elles se défont aussi des assignations sexuées en manifestant une certaine misogynie. C'est toujours Geneviève Dorman qui déclare « Pour moi, user du masculin, c'est un masque, une pudeur, un travesti qui me permet aussi de dire beaucoup de choses, y compris de taper sur les femmes, ce qui n'est pas désagréable. » Donc, pour conclure, on voit bien comment le discrédit qui pèse sur la littérature féminine, sur la capacité des femmes à endosser une posture, une activité traditionnellement masculine, est pérenne. Et là, on peut conclure sur George Sand, qui tentait de se défaire de toute assimilation avec les romancières à succès du XIXe siècle en demandant à ce que l'on ne la dénomme pas femme auteur.
Voilà. Ça c'est vraiment intéressant parce que on peut encore le mettre en relation avec une enquête en sociaux qu'on est en train de faire sur les pratiques culturelles des enfants. Et on se rend compte que les petites filles, quand elles grandissent et qu'elles sont de milieux favorisés, donc elles accumulent des capitaux scolaires, sociaux, etc., elles vont justement se démarquer des autres petites filles en adoptant les goûts des petits garçons. Donc, par exemple, en écoutant du métal plutôt que Britney Spears. Et il y a vraiment cette idée de « moi, je ne suis pas une fille ». Et vous voyez, la question que ça pose sur si même les femmes et filles à capitaux scolaires, etc.,
se démarque, enfin, vous voyez, considère le stéréotype féminin comme un stigmate. Voilà, comment on coupe le cercle vicieux. Alors, pour dernière question avant de vous laisser la parole pour un débat, et puis pour pas terminer sur une note, les stéréotypes ne changent pas, etc. Je voulais voir des exemples justement de
Excuse-moi, je voulais juste ajouter que, pour terminer, qu'il y avait évidemment aussi des auteurs qui mettaient au cœur de leur œuvre la question des identités sexuées, en jouant notamment sur l'absence des marques de genre dans la définition des personnages. C'est notamment les livres d'Anne Garreta, ou alors aussi d'autres romancières comme Pierrette Fleutiot, qui a tenté de travailler la question des normes sociales genrées en revendiquant l'existence d'un jeu universel féminin qui serait départi de tous ces atours essentialisants. Ou même Annie Ernaux qui, par exemple, quand elle élève l'avortement au rang d'événement en le désignant comme une expérience, en désignant cette expérience, pardon, comme une épreuve humaine totale. Donc, ce travail sur les représentations s'inscrit dans une recherche littéraire qui réussit aussi parfois à subvertir les genres romanesques. Voilà, c'était pour pas terminer
le sentiment. C'est bien parce que tu as répondu avant la question, mais justement, si du coup on peut avoir d'autres exemples, mais. De tentatives de déconstruction.
On a tout coupé la transgression, en fait.
Mais on va la faire maintenant. Donc, je ne sais pas si on peut revoir les images pour montrer justement des exemples de livres pour enfants qui rompent avec les stéréotypes diables.
Dans les années 70, je voudrais quand même rendre hommage à Adéla Turin, que certains et certaines d'entre vous connaissent peut-être, qui avait créé une maison d'édition qui s'appelait « Du côté des petites filles ». Qui avait une démarche féministe assez typique de l'époque. Donc, Talent Haut est une maison d'édition qui est dans la lignée d'Adéla Turin, on peut dire. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur le même genre de constat, les stéréotypes que je dénonçais et que j'illustrais tout à l'heure. Et on essaye de proposer effectivement d'autres livres, d'autres modèles aux enfants, que ce soit des albums ou des romans illustrés, d'autres modèles à nos enfants qui doivent justement prendre le contre-pied des clichés habituels sans imposer pour autant d'autres normes. C'est assez important aussi de le signaler. Donc je ne vais pas me faire le plaisir de vous présenter le catalogue complet de Talent Haut. Je vais vous montrer quelques exemples emblématiques avec d'abord La princesse et le dragon, qui est un album canadien qui a 25 ans maintenant, qui était non pas inédit en France parce qu'il était paru en presse, qui n'existait pas sous forme d'album et dont Talent Haut a racheté les droits au début de l'aventure éditoriale que nous avons lancée en 2005 et qui, à ce jour, est notre best-seller, qui a été réimprimé 2 fois, qui se vend toujours très bien en librairie, parce que c'est une belle histoire avec de belles images, certes, c'est toujours le point de départ quand on parle de littérature enfantine, parce que c'est très drôle, mais je pense aussi parce que le message est très très important, puisque la princesse Elisabeth est belle, elle doit épouser le prince Ronald. Un jour, un dragon détruit son château, brûle sa jolie robe et emporte le prince. Elisabeth décide de poursuivre le dragon et de sauver Ronald. Mais quand elle arrive pour délivrer Ronald, après avoir battu le dragon par la ruse, Ronald trouve qu'elle est un peu mal coiffée, qu'elle sent la fumée et qu'elle n'a pas une robe digne d'une princesse et ne veut pas l'épouser. Et lui dit de revenir quand elle sera digne de lui. Et donc Elisabeth le plante là, lui dit qu'il n'est qu'un gros nul. En anglais, c'est a toad, ce qui veut dire à la fois un crapaud et un crétin. Donc on n'a pas réussi à rendre ça en français. Mais c'est là, on a véritablement un affranchissement des normes, une transgression. C'est pas toujours le cas dans nos livres parce que on essaie de toucher tous les publics. Donc on a des livres qui sont parfois moins engagés, moins ouvertement militants, mais quand Lulu sera grande, Lulu chassera le dragon, parce que oui, chasser le dragon, c'est pas que pour les garçons, dit-elle à la fin du livre. On a un imagier renversant qui est assez intéressant puisque c'est un livre dont on a eu l'idée après avoir lu un rapport d'une sociologue qui s'appelle Leila Scherrar, qui avait fait une étude dans les écoles maternelles où elle faisait travailler les enfants sur les objets et sur le sexe des objets. Et donc on leur montrait aux enfants un grand vaisselle, donc c'était féminin, et puis un grand moto, c'était masculin. Donc dans cet imagier renversant, c'est l'inverse, c'est le papa qui porte des grands vaisselle, le papa, et la maman qui fait de la moto, et ainsi de suite. Donc tout un jeu sur les stéréotypes liés aux objets. On a le fil, le fer, le tablier, etc. Quelques autres exemples, ça c'est un garçon qui a les cheveux longs. On a, après avoir travaillé pour une reine trop belle, c'est aussi une histoire intéressante.
puisqu'il s'agit d'un conte à l'envers. C'est une reine qui est très très belle. Elle est tellement belle que son mari jaloux veut l'enfermer, l'enferme dans une tour et elle s'ennuie. Donc elle fait le vœu d'être laide, vœu qui est exaucé par une petite reinette magique. Et étant laide, elle peut se mêler à la cour, au peuple et à la vraie vie, se faire des amis, se montrer sous son jour de femme intelligente, amusante, qui est sociable. Et lorsque son mari s'aperçoit de la supercherie, il fait son portrait sur les conseils de la reinette. Et toute la cour et le peuple reconnaît en cette femme... la dame si gentille, si intelligente et si sociable, et son mari l'aime à nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que dans la chute, à l'inverse de ce qu'on trouve habituellement dans les contes de fées, elle ne redevient pas belle, c'est-à-dire qu'elle reste laide et son mari, comme les autres, l'aime dans toute sa laideur extérieure. On s'est aperçu que bon, il fallait prendre le mal à la racine, si vous pouvez me passer ce mauvais jeu de mots. Donc c'est pour ça qu'on avait commencé par offrir des livres pour les tout petits, qui étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, très perméables aux stéréotypes. Mais tout n'est quand même pas perdu à l'âge de l'école primaire. Donc on a lancé ensuite une collection de romans qui s'appelle Livres et égaux. Qui propose sur le même thème de la lutte de l'égalité filles-garçons et de la lutte contre le sexisme des petits romans illustrés avec, pour vous montrer quelques exemples emblématiques, je vais un peu trop vite, excusez-moi, Ma mère est mère, donc beaucoup de choses est déjà dit dans la couverture. Je vous laisserai les découvrir si vous voulez dans le catalogue. Et puis La Joue Bleue, qui est paru l'année dernière, qui est un livre sur les violences faites aux femmes, puisque ça se passe dans une préhistoire imaginaire où Homo sacrin sacrin prend femme. Il prend femme dans tous les sens du terme. Et la signe à résidence dans la grotte. Elle est chargée d'étriper le poisson, comme toutes les femmes et toutes ses mères ont fait avant elle. Et comme elle a envie de voyager un petit peu avec Homo sacrin sacrin, il finit par lui donner une petite claque, puis une grande claque, puis souvent lui la taper. Et finalement, elle se lève et elle dit non, elle part avec son fils. Et ce qui est intéressant aussi dans ce livre, outre que le texte est très très bien écrit et les illustrations sont très belles, c'est que les choses sont dites. Sans phare, mais sans misérabilisme aussi. Ça se passe. La distance créée par la préhistoire imaginaire qu'a choisi l'auteur permet donc de ne pas être trop cru non plus. Et surtout, ça se termine sur une note d'espoir, sur une note à la fois réaliste et une note d'espoir, parce qu'elle ne revient pas avec Homo sacrin sacrin, mais elle laisse néanmoins son fils aller voir son père de temps en temps dans des conditions de sécurité. Donc c'est un exemple. Je pense unique dans la littérature de jeunesse où le sujet des violences faites aux femmes est abordé de façon claire pour un âge quand même assez jeune.
Peut-être que je vais donner la parole à Audrey, mais en laissant les exemples défiler derrière. Donc peut-être d'autres exemples de transgressions dans la littérature.
Oui, je vais résumer aussi pour qu'on puisse circuler. Sur l'essai, du coup, un exemple de transgression, et je ne vais en prendre qu'un, j'aurais voulu vous parler aussi de King Kong, théorie de Despentes. Je n'en parlerai pas. Je parlerai de Geneviève Brisac, parce que La Marche du Cavalier, ça aurait pu servir pour le coup d'exergue à elle, à Centre Pompidou. Donc c'est pour ça que je vais vous lire un petit peu le principe. Donc dans La Marche du Cavalier, Geneviève Brisac, donc qui a été active dans les mouvements féministes des années 70, c'est un livre qui date précisément de 2002, et elle a choisi donc une figure d'échec qui est La Marche du Cavalier. Elle a donné ce titre à cet essai qui porte sur diverses romancières anglaises. Et voilà comment elle justifie le fait d'écrire cet essai donc à contre-courant ou à contre-norme. Pourquoi ne parler dans ces pages et sur des questions somme toute générales que de livres écrits par des femmes ou presque ? Par provocation, tout simplement par souci de justice et pour rétablir un peu la balance. Quand un lecteur évoque ses lectures et qu'il n'évoque que des livres écrits par des hommes, ce qu'ils ont fait, ce qu'il est, ce à qui il est reconnaissant, ses pères et ses modèles, personne ne relève même cette univocité. Le masculin est général, le féminin reste le particulier. J'ai observé que si on ne parle que de femmes, le soupçon est instantané, alors va pour le soupçon. Voilà. Donc, encore une fois, Brisac ne choisit pas d'écrire un essai littéraire sur la littérature féminine ou sur des femmes représentant la littérature féminine. Elle écrit un essai littéraire sur des œuvres de femmes en disant que c'est de la littérature, point. Ça me semble vraiment essentiel ici en termes de transgression. Pour les fictions, je reprendrai bien sûr l'exemple qu'a pris Delphine sur Sphinx d'Anne Garetta, qui est donc un roman qui est écrit sans marque de genre du tout, donc qui raconte une passion amoureuse, qui revisite d'ailleurs le topos de la passion amoureuse dans la littérature, mais en ne marquant ni l'instance narrative ni le personnage en question. Voilà, c'était les deux exemples. J'aurais pu donner Régine de Tambel aussi avec La Modéliste à la même période, donc un roman sous contrainte ou qui utilise uniquement des termes féminins, par exemple, ou encore Leslie Kaplan et son travail sur la catégorie en général. Donc là, non pas dans une logique de réflexion sur les genres au départ, mais dans une logique de réflexion sur la catégorie, donc de catégorie, hein, du grec accusé, et le fait que tout son travail littéraire va tenter de dépasser les catégories par différents procédés narratologiques, etc. Voilà ce que je dirais.
Bah, alors moi, je vais peut-être continuer un peu à plomber l'ambiance, parce que je voulais évoquer le cas de, enfin, justement de, parce qu'effectivement, ces normes de genre, elles sont encore actives dans le champ littéraire contemporain et extrêmement sexiste, où les genres littéraires sont encore très marqués. Et à l'occasion d'entretiens, notamment avec des membres de jury littéraire, j'ai pu recueillir une anecdote qui, en fait, faisait état de la manière dont ce jury, qui voulait au départ accorder son prix à une femme qui avait écrit sur le thème de la guerre, a finalement, à la suite d'une campagne de presse hostile, parce que le bruit avait couru qu'on voulait le remettre à cette écrivaine, donc je ne citerai ni le membre du jury ni l'écrivaine, et donc alors elle dit nous courions vers le désastre, qu'on nous dise ils sont complètement fous, c'est la veillée des Jaumières. Donc nous avons hésité, nous avons pensé qu'en réalité c'était un très beau sujet, assez bien traité, mais pas un grand livre. Et donc on peut imaginer que le traitement romanesque du sujet, en décalage avec les attendus des codes de ce genre romanesque, ont eu raison de cet auteur qui avait franchi la frontière d'un genre très masculin, si ce n'est très viril. Donc voilà, donc c'est pour toujours avoir à l'esprit qu'aujourd'hui on ne peut pas encore écrire sur n'importe quel thème, et justement les normes de genre habitent encore les catégories de perception et d'évaluation donc des gens. Alors maintenant, Christine m'avait demandé voilà, ce qu'il en était pour les écrivaines, et au fond j'ai travaillé sur la construction des carrières des auteurs féminins. Et donc surtout, au fond, la manière dont elles ont à négocier en permanence avec les normes de genre et les assignations sexuées. Et donc, au fond, quand je les faisais parler sur leur enfance, on voyait bien qu'il y avait la nécessité de passer outre un interdit symbolique très sexué, hein, qui était que, en fait, les parents, bien souvent, quand la déclaration de vouloir être écrivain était précoce, généralement s'opposaient du coup à cette aspiration. Alors il y a plusieurs raisons. Il y a la raison de c'est pas un métier, comme toutes les carrières artistiques, hein, donc ça qui marche de manière équivalente pour les hommes et pour les femmes. Mais en même temps, même dans les familles où les parents avaient où la sociabilité autour de la lecture était la plus forte, où me disait l'une, on s'engueule pour savoir qui de Baudelaire ou qui d'Apollinaire, ou qui pour, où elle dit pour me parler de la drogue, mon père nous parlait de Michaud. En fait, le choix qu'elle avait manifesté d'investir cette carrière avait été réprouvé. Elle me dit, quand j'avais 13 ans, mon père m'a dit, mais toi, de toute façon, tu n'écriras jamais, tu ne seras jamais une artiste, puisque les femmes, elles créent des enfants. Elle dit, moi, j'étais désespérée, surtout moi qui adorais les livres et les gens qui adoraient les livres. J'attendais quelque chose, mais lui, il me dit, il n'y a que des hommes, il n'y a que des hommes. Et donc, en fait, on voit bien que, à la fois en se conformant aux normes culturelles familiales, en ayant une pratique d'écriture et de lecture précoce, eh bien, en fait, leur pratique d'écriture connue dans la famille se voyait limitée précisément au cadre domestique et au contrôle parental.
Mais bon, évidemment, ça n'empêche pas la persistance, au fond, de la croyance en cette vocation. Alors ensuite, pour aller vite, comment les femmes, pour tenir la posture d'écrivain, vont s'approprier les signes du masculin. Et on voit là que la position dans la fratrie, la manière dont le rapport au père peut jouer, et va façonner, au fond, va donner la possibilité aux filles d'ouvrir leur possibilité. Donc il y en a une autre, Isaure de Saint-Pierre, qui raconte comment son père, qui voulait un fils aîné, avait eu en fait une fille, et qu'il l'avait élevé en garçon. Et donc elle dit, voilà, je faisais des sports de garçon, etc. Et donc elle-même, on en revient toujours sur l'aspect répulsif de tout ce qui rapproche de la féminité, au fond, va faire en sorte qu'elle va se définir. D'accord. Bon, alors après, je voudrais vous parler de l'assignation à la maternité, qui fait qu'elles ont des enfants, ce qui retarde. Bon, d'accord.
Okay. S'il y a des questions, puis, je suis, pour que Delphine puisse en parler.
D'accord. C'est pas grave. Ouais.
Merci beaucoup à toutes les trois. Donc peut-être. Donc si vous avez des questions.
Ah bon, d'accord, oui. Mais écoutez, moi j'ai quatre filles, j'ai un garçon. Bon, mes filles, quand elles étaient jeunes filles, elles griffouillaient aussi. Après, heureusement, elles se sont mariées, elles ont eu des enfants. Et je crois qu'avoir un bébé, après, c'était quand même une plus grande joie, vous voyez.
Donc,
et
moi, assignation à la maternité.
Non, mais la raison, c'est une plus grande joie. Je ne sais pas si vous avez des enfants, vous.
Oui.
Oui. Et maintenant, je suis content d'avoir 17 petits-enfants. Mais écoutez, moi, je les ai trouvés plus heureuses. Bon, je ne dis pas que maintenant, peut-être qu'une fois après,
mais
peut-être à la retraite.
Vos garçons, ils ont eu des enfants aussi.
Oui, le fils aussi a eu des enfants. Ils ont presque cinq enfants chaque. Mais. Ce qu'il y a, c'est que je crois que vous dites la femme, mais je ne crois pas que les hommes soient. La femme, elle a comme une mission essentielle, c'est ça le problème. Elle ne peut pas toujours avoir ce grand privilège
donc,
d'avoir.
Que
nous, on n'a pas ce privilège.
Sur l'assignation à la maternité.
Alors je comprends qu'il y a moins de femmes peut-être auteurs que des hommes tout seuls qui tournicotent, qui écrivent des machins, qui écrivent. Mais que moi, je trouve que c'est la femme, elle est privilégiée de pouvoir avoir des enfants. Hein? Ben la question,
mais
c'est
elle
ça.
Peut faire les
s'il
deux,
y a moins,
c'est ça qui est incroyable.
Pourquoi qu'il y a moins de femmes écrites ? Il y a peut-être justement parce qu'elles ont plus de privilèges d'avoir des enfants. C'est beaucoup plus heureux pour moi. Oui. Oui.
Merci. Est-ce qu'il y a une vraie... Il y a des questions là-bas.
Les vraies.
Vous en avez une ? Il y avait quelqu'un avant par là ?
Alors, merci. Je voulais vraiment vous remercier. C'était un panel très intéressant, très agréable. Je vais juste faire une parenthèse pour le monsieur quand même, parce que j'étais contente de le voir. Je regardais qui était dans le public. J'aime bien savoir qui vient à ce genre d'endroit. Donc, je suis contente qu'il y ait des hommes à ce genre d'endroit. Bon, des fois, on est moins content des questions ou des commentaires qui sont faits, mais les privilèges et les destinées des femmes ne sont pas toujours fonction de notre biologie. Donc, ce serait bien qu'au moins un panel comme celui-là, on puisse arriver à ouvrir un petit peu ça, même pour les grands-pères très satisfaits. Voilà. Donc, moi, je voulais vous remercier parce que j'ai trouvé que, Christine, vous avez une lecture assez intéressante du phénomène contemporain. Moi, je suis maître de conférence, je suis hispaniste, donc je travaille sur un corpus très différent, mais il y a des choses qui me font écho. Par contre, c'est vrai que... Alors, j'ai quelques commentaires et quelques questions pour tout le monde. Hein. Je vous lance tout ça. C'est vrai que j'étais un petit peu intriguée en tant que sociologue que vous ne nous parliez pas davantage. Alors, il y a un état de fait, un constat thématique, mais vous n'abordez pas trop finalement dans la réitération, la récupération de ces stéréotypes. Qu'est-ce qu'il en est du désir de la femme ? Par-delà sa dépendance en tant que sujet désirant, reconnu par l'homme, et peut-être éventuellement sortir de cette passivité. Donc qu'est-ce qu'il en est ? Mais qu'est-ce qu'il en est pas seulement au niveau littéraire, hein, parce que vous avez abordé quelques exemples ou exemples transgressifs, mais surtout qu'est-ce qu'il en est des attentes éditoriales ? Moi, j'aimerais beaucoup savoir, finalement, aujourd'hui, quand on dit oui, on va ça, on peut publier, qu'est-ce qu'on demande, hein. Et l'autre question qui portait, c'était pour l'éditrice de Talents Hauts. Quel travail arrivez-vous à faire auprès des écoles actuellement aujourd'hui, puisque vous avez l'air d'avoir un projet assez intéressant. Est-ce que vous arrivez à faire des choses concrètes dans la diffusion, vu les coupures budgétaires?
Alors, j'ai peut-être répondre juste moi pour le travail que j'ai fait. Donc, dans ce travail-là, donc c'était avec Anne Simon qui est littéraire. Donc, on n'a pas fait d'entretien avec les romancières. Donc, sur le désir, moi, je peux parler juste thématiquement dans les livres. Et c'est bien que vous posiez la question parce que c'est une des innovations. Il y a quand même dans les descriptions. Alors, pas les descriptions de sensations. Qu'on trouve pas dans les romans écrits par les hommes. Alors deux sensations. Alors Catherine Millet, elle explique ce qu'elle décrit, quoi, ce qu'elle ressent, et elle dit à un moment, mais c'est intéressant parce qu'elle dit que elle dit avoir rencontré quelqu'un et qui lui dit, bah l'orgasme, c'est ça, ça, ça. Et l'orgasme féminin, c'est ça, ça, ça. Et elle dit, oh bah j'en ai jamais eu. Et cela dit, elle décrit quand même ce qu'elle ressent. Et donc voilà, sur les descriptions de désir et de sensations. Avec des mots, il y a des innovations. Après, sur le reste de votre question, je peux pas répondre parce que pour le coup, moi, j'ai pas fait d'enquête sur les maisons d'édition. Je sais pas si vous avez plus d'éléments toutes les deux. Est-ce que vous avez fait des entretiens?
Moi, je peux vous répondre concernant le phénomène de la chiclite, ce qu'on appelle la littérature de poulette. C'est-à-dire qu'il y a en fait un transfert au fond d'une sorte de littérature. Alors c'est genre Le diable s'habille en Prada, etc. Et qui en fait a ouvert les portes du coup à certaines écrivaines en France à qui on a commandé typiquement ce genre d'ouvrage de femmes émancipées, etc., etc. Enfin bon, soi-disant, bref. Donc là, ce serait intéressant aussi de retravailler sur le contenu de ces œuvres. Voilà, et puis ensuite, toujours pour parler des expériences vécues par certaines écrivaines, l'une d'elles m'avait raconté qu'un éditeur lui avait commandé, puisqu'elle lui parlait d'une relation qu'elle avait eue avec un philosophe, et plutôt que de parler uniquement de la relation intellectuelle qu'ils avaient eue autour de la philosophie, lui a demandé de parsemer son ouvrage de petites parenthèses un peu charnelles, etc., qui mettaient en scène éventuellement une forme de relation sentimentale ou en tout cas très... Voilà. Donc là, on voit bien comment, du coup, effectivement, on produit la demande et comment, effectivement, on peut rejouer le stéréotype. Voilà, mais je pense que c'est exactement ce que tu peux retrouver avec les écrivaines maghrébines à qui on demande la représentation de l'exotisme. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous en avez.
Oui, sur les écoles. Ah oui, c'est pardon. Le sujet par l'objet désirant. La femme comme sujet par l'objet désirant. Et l'autre question, c'était sur qu'est-ce que souhaitiez au niveau de la diffusion auprès des écoles, si le projet n'a de sens à mes yeux que dans une diffusion quand même massive.
Oui, enfin massif, ça ne veut pas forcément dire scolaire. Ça peut aussi passer par la librairie, la bibliothèque, voilà. Mais cela dit, vous avez parfaitement raison. Il y a un gros travail de sensibilisation des enseignants à faire. Pour répondre à votre question, Talents Hauts, vous l'avez compris, c'est un éditeur jeune, indépendant, petit, peu fortuné, avec donc peu de moyens. Entrer dans les écoles, ça suppose d'avoir des fichiers, d'acheter des fichiers qui coûtent très très cher, d'envoyer des spécimens, ça coûte encore plus cher. Donc Talents Hauts n'a pas cette force de frappe qu'ont les gros éditeurs, que vous retrouvez bien évidemment dans le livre scolaire, mais aussi dans la littérature de jeunesse, puisque si vous avez eu des enfants à l'école en France, vous savez que dès la rentrée, on leur donne des petits catalogues pour qu'ils s'abonnent et recevoir les 8 exemplaires très judicieusement choisis dans le catalogue des gros éditeurs qui eux ont cette force de frappe. Donc clairement, nous on ne peut pas lutter contre ça. Mais bien évidemment, la lutte contre les stéréotypes de sexe est au programme des écoles maternelles et primaires. Les enseignants n'ont aucun outil, quasiment aucun outil, ne sont pas sensibilisés, sont pour beaucoup complètement dans le déni. et sont le jouet donc d'opérations à la fois, enfin, du sexisme ambiant, on peut le dire, mais aussi du marketing, puisque bien évidemment les gros éditeurs non seulement ne se mouillent pas à faire des livres contre le sexisme, mais comme je l'ai montré tout à l'heure, renforcent justement les stéréotypes qui sont à l'œuvre en littérature jeunesse, pour ne pas parler des livres scolaires. Et donc c'est à la fois difficile sur le plan économique et sur le plan idéologique d'imposer une voie différente, alors que c'est au programme de l'éducation nationale. Donc le paradoxe est là. Alors pour quand même dire qu'on y arrive quand même un petit peu, puis j'espère que c'est pas fini, dans le département du Val-de-Marne, qui est notre département de rattachement, on mène une action qui s'appelle l'IREGO, qui est subventionnée par le Conseil général et par la mission aux droits des femmes et à l'égalité, et qui consistait, il y a quelques années au départ, quand on a commencé à sensibiliser les enseignants à ces questions de clichés sexistes dans les livres pour enfants, et qui a pris la forme depuis 2 ans, qui est assez intéressante, d'un concours d'écriture ouvert au CPCE1. Donc là, ce sont les enfants qui lisent des livres antisexistes, donc sur le modèle, entre guillemets, dans l'esprit de nos collections, et surtout qui en produisent. Donc ils sont amenés à réfléchir dans leur école avec leurs enseignants, ça prend souvent la forme d'un projet d'école, parfois même dans les familles, et donc à produire un manuscrit qui ensuite est sélectionné par un jury qu'on espère compétent, et qui est imprimé, offert aux écoles du département, etc. Donc c'est un coin enfoncé dans la forteresse. Il est partiel, il ne touche qu'un département, mais c'est un très bon exemple de ce qu'on peut faire pour, à partir du livre, faire entrer le débat dans les écoles, et je vous dis même dans les familles, puisque lors du premier concours l'IREGO qu'on a organisé, on a su que les livres avaient circulé dans les familles, donc c'est quand même une démultiplication très intéressante.
Je crois qu'on a encore le temps pour une question avec une réponse rapide.
Moi, j'en ai une, mais je ne vais pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Il y a une chose qui m'a surprise. Je vous remercie beaucoup, chacune, pour votre intervention, mais j'étais quand même un peu surprise. Alors, je sais qu'on est dans les normes de genre, que, en fait, la question des normes de sexualité, que de la dimension très hétéronormative de tout ce dont vous avez parlé, n'ait pas été évoquée, le terme même n'ait pas été dit. Et je pense à ça, en particulier, par rapport au Kama Sutra, dont tu parlais, dans lequel les pratiques sont hétérosexuelles uniquement, d'après ce que j'ai compris, et aussi par rapport à ce que j'ai lu récemment sur un livre d'enfants de Félix Le Chat et Félix une histoire de poisson, qui a été interdite après la réaction de Christine Boutin, et duquel Roselyne Bachelot a fait enlever le logo. Donc il me semble qu'on est vraiment là aussi dans... Je voulais juste souligner cette dimension-là.
Mais il fallait le dire.
Ouais, c'est tout à fait juste, parce que c'est ce que je disais sur la nouvelle pornographie de Marie Nimier, c'est qu'elle insiste là-dessus aussi. C'est effectivement des représentations hétérosexuelles, très clairement. Enfin, on retrouve Monique Wittig, un régime politique hétérosexuel.
Alors, cela dit, après, c'est pas parce que... ça me fait penser à un autre colloque où j'avais participé, où il y avait Wendy Delorme, qui fait des livres en ayant une position affirmée de performeuse lesbienne, etc. Et elle disait que, cela dit, c'est pas non plus parce qu'on part avec l'intention de « je suis lesbienne, donc je vais écrire une sexualité différente » qu'on y arrive. Et elle disait qu'elle-même, dans ses descriptions de rapports sexuels entre deux femmes, il y a à nouveau les mêmes stéréotypes, et elle le voit aussi, quoi.
Bonjour, je vous remercie pour vos exposés. Je voulais poser une question à Audrey, je crois, ou peut-être deux, qui était liée à Hélène Cixous, sur, j'avais pas compris ce que vous en dégagez là, sur la création de personnages masculins, qui me paraissait assez intéressant. C'était pas très développé, mais puisqu'elle était très active, bon, et puis aussi au côté psychanalyse, c'est assez particulier comme positionnement, mais pourquoi cet exemple-là, la création de personnages masculins, en quoi ça évoquait quelque chose qui m'a échappé? Peut-être pas la rapidité.
Je ne vais pas pouvoir vous répondre sur le fond, parce que je ne suis pas psychanalyste, et donc je n'ai aucun moyen de faire l'analyse du point de vue psychanalytique. En fait, cette citation d'entretien, elle visait juste à introduire le fait que les écrivaines avaient des difficultés à se confronter à la création de narrateurs masculins. Donc maintenant, je ne peux
pas vous répondre exactement dans la mesure où c'est une, en plus, c'est une citation que j'ai extraite d'un entretien que je n'ai pas en tête. Donc je peux vraiment pas vous dire là comme ça. Je sais pas où est la personne qui a posé la question. Quel autre type de justification elle donnait à ça. Donc voilà. Après, ça demanderait effectivement à travailler davantage sur l'œuvre, le rapport à l'œuvre et le rapport à la trajectoire propre de la personne. Mais ce qui était l'usage de cette citation, c'est toujours le problème des usages de citation, visait juste à introduire, là, dans mon propos, la dimension problématique, en tout cas parfois difficile, pour les femmes de s'emparer et de l'énoncer comme telle, d'énoncer la difficulté de créer des personnages masculins. Maintenant, l'œuvre d'Hélène Cixous, c'est... Elle fait partie des auteurs qui ont défini l'écriture femme dans les années 70. Elle a notamment écrit une sorte de manifeste qui s'appelle « Le rire de la méduse », où en fait elle visait justement à sortir au fond de cette catégorie littérature féminine en défendant une écriture femme qui là vise à... Enfin, pour comprendre la construction de ce label-là, écriture femme, il faudrait revoir quelle est elle-même sa trajectoire littéraire et la filiation, surtout, littéraire dans laquelle elle s'inscrit, puisqu'elle mobilise des auteurs comme Genet, Mallarmé, Joyce et Marguerite Duras, qui est la seule auteure féminin qu'elle cite dans ce papier, qui est située en plus dans un numéro consacré à Simone de Beauvoir et qui joue aussi des oppositions entre générations, entre... prise de position féministe, etc., etc. Bon, là, ce serait un autre...
Je crois qu'on va s'arrêter là, parce qu'on a rempli notre temps. Je vous remercie beaucoup, toutes les trois.
Merci à vous, Christine. Merci à vous trois également.